portrait de femme de notre matrimoine, réalisé, préparé et animé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le continent américain et en Europe, puisque nous présentons une violoniste prodigieuse du 19e siècle, très peu connue, Camille Urso, U-R-S-O, née le 13 juin 1840 à Nantes, dans une famille de musiciens. Son père, sicilien d'origine, est un flûtiste et sa mère, chanteuse lyrique. Aussi, dès l'âge de 7 ans, Camille réclame de jouer au violon. Ses parents, d'abord réticents, parce qu'elle est une fille et que pour une fille, jouer de cet instrument n'était pas convenable à l'époque, les filles jouaient du piano. Ses parents acceptent de lui faire donner des cours par un ami de son père. 1847 est donc l'année de l'apprentissage. Elle apprend très facilement le solfège, alors même qu'elle n'a pas été scolarisée. À 8 ans, elle donne son premier concert, petite fille minuscule sur scène. C'est un succès. Et à partir de ce moment, son père deviendra son soutien permanent, promoteur de sa carrière. Elle part à Paris pour présenter l'examen d'entrée du Conservatoire de musique. Calme et déterminée devant un aréopage de messieurs empesés, elle est reçue haut la main. De 1849 à 1852, enfant prodige, elle se produit sur des scènes parisiennes, à Mulhouse et en Allemagne. Août 1852 est une date importante pour elle et pour sa famille. Elle embarque avec son père et sa tante pour les États-Unis d'Amérique, où on lui a promis monts et merveilles pour sa carrière. Tout d'abord, Camille en est réduite à donner des récitals dans des familles, mais le bouche à oreille fonctionne et le 30 septembre 1852, elle est engagée à la Germania Musical Society. Enfant prodige, virtuose du violon, elle est adulée aux États-Unis où elle fait sans cesse des tournées triomphales dans l'Est, Boston, Philadelphie, Cincinnati, etc. Elle fait la connaissance d'une cantatrice célèbre, Henriette Sontag, qui devint pour elle, encore petite fille, une figure maternelle. Mais Henriette Sontag mourut très vite d'un choléra contracté lors d'une tournée au Mexique. Alors Camille s'effondre, refuse de remonter sur scène. Dans l'espoir de la guérir, son père l'installe provisoirement au Canada, où elle retrouve une importante communauté de Français de Loire-Atlantique, avec laquelle elle peut évoquer son enfance. De retour à New York, elle retrouve enfin, après 4 ans, ses frères et sa mère. Elles sont toutes les deux épuisées. Sa mère, pour avoir tout ce temps assumé seule sa famille. Camille, pour avoir assuré sans relâche pas moins d'une centaine de concerts et les déplacements épuisants d'une ville à l'autre. Exténuée, elle n'aspire plus qu'à une existence calme et paisible. Elle rencontre lors d'une soirée George Taylor, un Anglais de 10 ans son aîné, qu'elle épouse en 1856 à 16 ans. L'année suivante, elle donne naissance à une fille nommée Emily, en l'honneur de sa mère. Puis elle accouchera de Linley, un garçon, en 1859 et de Caroline en 1860. Donc 3 enfants en 4 ans. Ce sont quelques années de parenthèse de vie familiale paisible, mais elle a le malheur de perdre son mari, mort de tuberculose en 1861. Elle a 20 ans et 3 enfants à charge. Son père s'est éteint, lui aussi, à 50 ans. Elle n'a plus de soutien véritable, plus d'agent. La guerre civile, dite guerre de sécession, se profile. Camille et sa mère décident de retourner à New York avec les enfants. Camille a mûri. D'adolescente guidée par son père qu'elle était, elle revenait à New York adulte en charge de famille. En tant que musicienne, si elle a perdu sa légèreté juvénile, son interprétation a gagné en puissance et élégance. Elle a repris les concerts et retrouvé le succès. Elle renoue avec ses amis de Boston en 1863. En décembre, en pleine guerre civile, elle est à Springfield. Son répertoire aussi a changé. Elle interprète désormais Mozart, Beethoven et Mendelssohn. Cependant, dès 1862, elle avait rencontré, dans le milieu des émigrés francophones de New York, un jeune Belge, Frédéric Luer, qui devint vite son manager et qu'elle épousa le 1er juillet 1863. Toute sa vie, Frédéric sera à la fois un mari attentionné et son agent pour sa carrière. Ils eurent deux enfants, Camille en 1864 et Frédéric en 1865. En tout, cinq enfants pour Camille à 25 ans. Mais Camille, cette fois, mena de front sa vie professionnelle et sa vie familiale. Quoique l'équilibre ait été difficile à trouver entre les deux à cette époque, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui amènera Camille à dire à ses jeunes consoeurs qu'une artiste ne devrait jamais se marier. À la tête de sa propre formation, la Camilla Ursos Concert Company. Camilla est le nom de scène que lui avait donné son père. Artiste indépendante, Camille vole de succès en succès. Ses qualités exceptionnelles d'interprète sont reconnues partout. Au Québec, en 1864-65, elle est reçue comme une véritable icône patriotique. Mais Camille est gênée par la célébrité. Sa nature réservée, discrète, s'en accommode mal. Voici comment la décrit George Putman dans son livre « Musical Memories » en 1808. Je cite... Elle avait encore ce même visage pâle, sérieux, insondable, les mêmes yeux sombres, brillants et mélancoliques, mais la dignité gracieuse de ses manières, avec l'avancée dans les années, lui avait permis d'accéder à un style plus abouti, plus personnel. Camille expliquait son habitude de jouer les paupières closes par le besoin de concentration extrême que requiert le jeu du violon. Cette particularité ne l'empêche pas de continuer à rencontrer un succès triomphal au Mexique, à La Havane, à Broadway, où elle joue devant 3200 personnes. Elle est réclamée partout dans le monde, notamment à Paris, dans sa France natale. En 1865, elle y reçoit un accueil des plus chaleureux. Elle fut la première femme à se produire avec l'orchestre du Conservatoire parisien, celui-là même qui l'avait formée. Après une année entière passée en France, elle repart aux États-Unis en 1866. Cette année-là, mourut à 51 ans seulement sa mère, Émilie, qui habitait avec toute la famille à Manhattan, au centre de New York. Camille donne à nouveau des concerts à Boston. En 1869, de retour d'un nouveau séjour à Paris pour soigner son poignet gauche, a lieu un très grand événement dans sa carrière, le concert à San Francisco. Elle s'y rendit avec son mari par la voie ferrée nouvelle, un train qui couvrait, en un peu plus d'une semaine, les 3800 kilomètres reliant la côte est, New York, à la côte ouest, San Francisco. San Francisco était alors une ville longtemps enclavée où les musiciens se produisaient rarement. Aussi, la ville flattée lui réserva un accueil digne d'une reine. Elle fut acclamée par un public qui, bien que peu connaisseur en matière de musique classique, lui manifesta une telle ferveur que Camille en fut touchée et se sentit redevable. Elle proposa alors un grand divertissement, qui se transforma en un festival de 5 jours à guichets fermés où Camille donna énormément de sa personne, organisant tout, veillant à tout, outre ses interprétations de Mozart, Handel, entre autres. Le maire de la ville, débordant de reconnaissance, organisa un grand bal en son honneur, elle si peu sensible au flonflon de la gloire. Réussite complète, donc, mais qui eut des conséquences sur la santé de Camille. À nouveau à Paris, on lui diagnostiqua une encéphalite qui l'obligea à garder le lit pendant 3 mois. En cette période de guerre franco-allemande, 1871, et de la révolution populaire réprimée dans le sang par tiers, la Commune de Paris, on l'a vu dans le portrait de Louise Michel. Camille était, elle, retirée à Boulogne-sur-Mer. Camille est maintenant un exemple, un modèle pour les filles aspirant à devenir violonistes. Mais depuis le spectacle de San Francisco, elle est persuadée que la musique classique ne s'adresse pas qu'à une élite et qu'il faut la faire connaître à tout le monde. Alors elle accepte d'insérer dans ses concerts des rengaines populaires, ce qui n'est pas du goût de ses partenaires de scène. Mais c'est un succès. Je cite « Madame Camilla Urso est l'une des rares violonistes solistes qui peuvent tenir hypnotisée un public sans éducation et peut-être ingrat. Nous disons juste que c'est un triomphe de l'art », écrira le journal La Rockland Gazette en février 1875. Camille se crée une réputation d'avant-gardiste. Elle parcourt le continent dans tous les sens, va partout, ne reste nulle part. En 1879, elle se rend en Australie pour une série de 43 concerts à Melbourne et à Sydney. Elle s'y produit entourée d'artistes locales qu'elle a choisies exclusivement des femmes pour favoriser leur carrière. Entravée par la misogynie ambiante, elle-même, Camille, constatant qu'elle était toujours perçue, malgré son talent reconnu et son succès, comme une musicienne ayant réussi en dépit de son état de femme. Dans le monde de la musique, comme dans presque tous les domaines artistiques, les femmes sont des intruses dans un monde d'hommes. De 1880 à 1890, avec sa compagnie, elle fait le tour du monde, Nouvelle-Zélande, Brésil, Argentine. Ainsi, depuis son arrivée aux États-Unis en 1852, Camille Urso a sillonné 50 États et 12 pays. Elle est encensée partout. On presse des médailles à son effigie, on tire le canon pour l'accueillir. À 50 ans, elle n'a plus rien à démontrer. Sa célébrité n'empêchait pas que l'on persistait à ne pas recruter des femmes dans les orchestres. Aussi, Camille brûle du désir de faire changer les choses. À la fin du printemps 1893, une date très importante, elle fut invitée à participer au World Congress of Representative Women, le congrès mondial des femmes, un rassemblement colossal qui eut lieu à Chicago. C'est là qu'elle tint un discours remarquable à la tribune sur la condition des musiciennes, évoquant les chaînes qui les bridaient, la persistance d'un monopole masculin au poste décisionnel. Très en avance sur son temps par sa lucidité et la pertinence de son analyse, Camille insista sur la discrimination sexiste au sein des orchestres, plaida pour l'égalité salariale entre les deux sexes. Elle qualifiait de gâchis le fait que la vocation des femmes soit si peu encouragée ou soit brisée, nette, lors de l'entrée dans la vie conjugale. C'est qu'en cette fin du XIXe siècle régnait dans les sociétés humaines de tous les continents une violente misogynie. Par exemple, un philosophe britannique, Herbert Spencer, considérait que, je cite, « la femme artiste est un monstre dans la nature ». Peut-être à cause de ce tournant militant féministe dans sa vie d'artiste et aussi à cause de son âge, on ne pardonne pas aux femmes artistes l'entrée dans la vieillesse, bien que Camille n'ait que 54 ans, le regard des médias et du public changea. Désormais, on la considérait avec moins de vénération. En tournée en Australie de nouveau, certains puristes lui reprochèrent de s'éloigner de la grande musique parce qu'elle interprétait des airs plus communs. Mais Camille défendait âprement ce répertoire, considérant que l'art se devait d'éduquer l'oreille de tout le monde, sans distinction de classe sociale et de sexe. Ce choix courageux, compte tenu du contexte social général, va créer entre Camille Urso et les critiques musicaux un véritable fossé. Volontaire, déterminée, elle poursuit ses tournées, moins triomphale cependant. En 1896, elle devient la présidente d'honneur et l'ambassadrice du Women's String Orchestra, orchestre de cordes féminin, créé à New York par un ami, Karl Larnmunt. Elle put librement y promouvoir l'idée de parité entre les sexes. Mais la désaffection des médias, des critiques et donc du public, et donc les problèmes financiers, amena Camille à intégrer le circuit des vaudevilles. Vaudeville, un genre artistique composé d'une quinzaine de numéros variés, allant de l'acrobatie à la magie ou au jonglage, au milieu des musiciens, musiciennes et chanteurs et chanteuses lyriques. Elle s'y produisit pendant 3 ans, puis continua de donner des concerts, mais désabusée et nostalgique du passé. Début janvier 1902, elle ressent de violentes douleurs abdominales. Opérée d'urgence d'une appendicite aiguë, elle meurt le 20 janvier 1902 de l'infection consécutive à cette opération. Elle est enterrée à Greenwood, un cimetière à New York, comme sa mère et plus tard son mari et ses enfants. Dans la mort, elle est ramenée à son seul état civil, avec cette simple mention sur sa tombe, Camilla Urso, femme de Frédéric Luer. Il ne nous reste aucun enregistrement de ses concerts. première artiste française à faire valoir son art, son talent outre-Atlantique et sur toute la planète. En France, son décès fut quasiment passé sous silence. Le journal Le Ménestrel écrit le 2 mars 1902 « De bonne heure, elle avait voyagé et s'était fait une sorte de réputation à l'étranger. » Une presse française qui, au lieu de s'enorgueillir de son parcours brillant, semble vouloir minimiser ses mérites. Pourquoi ? Mais sa revendication légitime de faire aux musiciennes la place qui leur revient dans les orchestres s'est par la suite concrétisée. Indéniablement, Camille Urso a ouvert la voie, malgré l'exaspération de leurs détracteurs masculins, les réticences politiques et même les attaques physiques. Les femmes ont investi les orchestres avec des instruments à cordes. Le sexisme est encore partout, les femmes aussi sont partout. Aujourd'hui, un peu plus du quart des solistes sont des femmes et elles représentent 6% des chefs d'orchestre. Plus peut-être qu'aucune autre des artistes présentées ici à ce micro depuis 3 ans, telle Germaine Taillefer, par exemple, la compositrice de musique classique, Camille Urso, violoniste surdouée, enfant prodige, a été effacée de notre histoire, de notre mémoire, jusque dans la tombe, réduite au silence au sens littéral, puisque nous n'avons aucune trace de ses concerts. En France, à part peut-être quelques fins ou fines spécialistes, elle nous était inconnue jusqu'à la parution de cette biographie écrite en 2022 par Bénédicte Flee-Sainte-Marie à partir d'une bibliographie en provenance du Canada et des États-Unis, où Camille Urso a exercé son art pendant 50 ans. Mais maintenant, pour nous, elle est présente, elle existe, femme de conviction, grande artiste. Elle est bien une femme exceptionnelle de notre matrimoine universel. Ce ne serait pas si difficile de l'honorer enfin en donnant son nom à des conservatoires et des salles de concert dans les villes de France. Je cite ma source, Odile, une source unique, le livre intitulé « Je suis née au son du violon », sous-titré « La vie de Camille Urso, première musicienne féministe », par Bénédicte Flee-Sainte-Marie, écrivaine et journaliste, aux éditions Infimes 2023. Alors, je ne puis que engager nos auditrices et nos auditeurs qui voudraient en savoir plus à se plonger dans cette biographie très documentée qui se lit comme un roman, le roman de la vie de Camille Urso, et nous rend attachante cette grande artiste française.
Merci Jacqueline pour ce beau portrait encore. Et à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.